Bienvenue sur Bornibuzz Radio, le média participatif et citoyen des quartiers messins. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle émission de Petite et Grande Histoire de Metz. Nous sommes aujourd'hui à la résidence Sainte-Croix et avec nous trois invités d'exception, Daniel, Christiane et Yves. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Bonjour et merci d'être là aujourd'hui pour une nouvelle émission. Alors on a déjà eu une présentation et des récits de vie. On a découvert la vie de Daniel, la vie de Christiane et aujourd'hui c'est au tour d'Yves qui pensait y échapper mais pas de chance, c'est son tour. Nous allons aujourd'hui découvrir son parcours. Alors Yves, déjà d'où venez-vous ?
Ah, je suis né dans la cité minière par excellence, dans le bassin Vouillé-Lorrain. Je suis né à Forbach. À Forbach, on dit à Foibach. Non, mais à Forbach, voilà. Mais il y a fort longtemps, hein. J'essaie de calculer, mais c'est affolant, quoi. C'était au siècle passé.
Et en fait, comment s'est passée ta scolarité ?
Très, très, très mal. J'étais fils de commerçant. J'étais commerçant. J'avais d'abord un pressing, les pressings qu'on avait dans les années 50. Puis après, ma mère s'est spécialisée dans les layettes, mais dans la confection enfant, mais d'un très bon niveau, quoi. Donc, elle ne visait que pour le magasin. Le magasin, c'était tout. C'était toute sa vie. Mon père, c'était pareil. Donc, je suis né. Mes parents avaient 42 ans. Quel exploit, quand même, hein. Mais je trouvais qu'on ne s'occupait pas assez de moi parce qu'on m'asseyait sur une chaise. On me disait, moi, tu bouges pas. Elle, et puis eux, ils vaquaient à leurs occupations. Je sais que lorsqu'on m'amenait chez le coiffeur, je griffais le coiffeur, je le mordais, je le pinçais à tel point qu'il a dit à mon père ne le ramène plus celui-là parce qu'il est vraiment trop dangereux. Donc j'avais des cheveux très très longs et justement pour que les cheveux ne tombent pas dans la figure, j'avais ce qu'on appelle des neigeuses, des petites trucs plates, voilà. Et puis un jour, je ne sais pas pourquoi, je les ai enlevées et je les ai avalées. Et puis elles sont miraculeusement descendues le long de l'œsophage. Et mon père, me voyant avec les cheveux dans le visage, me demandait, mais où sont les neigeuses? Et je savais à peine parler, j'avais 3 ans, je disais, j'ai mangé. Moi, il a dû se dire, oh ben, il raconte des conneries. Mais à force, je le vois encore rampant par terre avec sa torche en train de chercher des neigeuses. Et par acquis de conscience, il a dit, si j'allais quand même à l'hôpital, aux urgences de l'époque, à Marie-Madeleine à Forbach, faire une vérification. Puis effectivement, à la radio, on a vu que toutes les épingles étaient là. J'ai donc été hospitalisé, on m'a escaté. J'ai pas un beau nombril, il est tout moche mon nombril. Enfin, à l'époque, on cuisinait les gens comme ça, voilà. Et à peine sorti de là, ben, je retrouvais ma solitude, mon monde de rêverie.
Vous étiez enfant unique ?
Non, j'avais trois sœurs, dont l'aînée avait 20 ans plus que moi, l'autre 18 ans, c'est elle qui m'a élevé par la suite, et l'autre qui avait 8 ans de plus que moi, voilà, trois sœurs. Et mon père était heureux d'avoir enfin un fils. Hein. Il n'a pas essayé pour rien, quoi. Il a quand même réussi. Quoi. Mais le fils n'a pas répondu à ses attentes, pour la simple raison que j'étais... Je ne sais pas si c'est des qualités ou pas, mais j'étais un rebelle. Ça fait que je montais sur le toit de la maison. Notre maison était relativement haute et je m'amusais à marcher sur les toits. Bien sûr, les piétons dans la rue nationale où mes parents avaient le magasin s'affolaient. Ils ont appelé la police, ils ont appelé les pompiers pour que je tombe. Bon, on a réussi à me déloger de là. Mais j'étais toujours pas assouvi, et puis quelques temps après, j'ai mis le feu dans la cuisine. On avait un vieux poêle à charbon, puis j'ai sorti avec un tisonnier, j'ai sorti des trucs incandescents, et puis le balatum commençait à cramer. Il a fallu évacuer tout le monde, et tout ça à l'âge de 3 ans. Donc vous arrivez à situer le bonhomme, quoi.
Très précoce, effectivement, pour un pyromane. Vous avez vécu toute votre enfance à Forbach ?
J'ai fréquenté certains groupes scolaires, mais chaque fois j'étais éjecté, quoi. Ça fait que mes parents, ils en avaient marre, ils m'ont envoyé ici chez les jésuites, Saint-Clément. Et chacun sait que chez les jésuites, c'est pas tendre, hein. Toujours est-il, au niveau des effectifs, ça ne collait pas. J'étais pas longtemps chez à Saint-Clément, après j'ai atterri à l'Institut de la Salle, encore chez un ordre religieux. Et là, j'ai appris la discipline à coup de claque dans la gueule, passez-moi l'expression, de privation alimentaire et d'autres punitions, puisque moi j'étais fils d'un petit commerçant. Alors que mes copains, c'était tous des fils d'avocats, de médecins, de notaires. Donc, ils choyaient bien les frères le dimanche soir. « Ah, cher frère, je vous ai apporté un bon Bordeaux, vous m'en direz des nouvelles. » Voilà. Et moi, je ramenais jamais rien. Oui, à cause de Molière, on m'a fait réciter du Molière, je ne sais pas combien de fois. Et puis, j'avais des trous de mémoire, déjà. Et puis, après, j'en avais marre. J'ai écrit des lettres de menace aux profs de français. Voilà. Et puis, on m'a viré, quoi. Et après, je me suis retrouvé dans un lycée d'État à Forbach. Et là, j'étais déjà un homme politique précoce. J'avais rejoint le mouvement indépendantiste Alsace-Lorraine et je distribuais des tracts, et puis ce que je n'avais pas le droit de faire. Je distribuais des tracts dans l'enceinte de l'établissement et je tombe sur le proviseur, mais je ne le connaissais pas. J'ai tant habillé un tract, il m'a dit « qu'est-ce que c'est ?» Je dis « c'est un mouvement politique, hein, c'est pour « il y en a marre de la France et de l'Allemagne, vive l'Alsace-Lorraine, voilà ». Il me dit « vous faites de la politique, vous savez à qui vous parlez ?» Je dis « non, je suis le proviseur ».« Ah bon, ben, excusez-moi, monsieur le proviseur ». Bon, ben, une fois de plus, j'étais viré, voilà. Et après, j'ai intégré une école internationale en Allemagne. J'ai passé mon baccalauréat. Ben oui, j'avais pas passé le bac, forcément. J'étais viré chaque fois en seconde et en première. Donc j'ai bien potassé et j'ai passé un bac allemand, un bac philo allemand à Saarbrück. Et après, j'ai fait un examen d'entrée dans l'école d'interprétariat où j'ai fait mes 5 ans et demi.
Sans vous faire virer une seule fois en 5 ans, alors ?
Oui, là, j'étais étudiant, j'avais pas mal de liberté. J'avais fait du théâtre à Saarbrück à ce moment-là. Et je me rappelle, la femme, c'était la réalisatrice, c'était une berlinoise qui était francophobe, elle n'aimait pas les Français. Elle m'a juste dit « Vous, monsieur, vous êtes franchement mauvais, dégagez !» Bon, ben, dégagez. Donc, j'ai pas fait de théâtre, voilà. Là, j'ai fait du théâtre après en sortant, mais on me donnait 8 à 10 pages à apprendre par cœur. Et là, j'étais dans l'incapacité de le faire, quoi. Oui, ben, on a tourné un petit film, c'est vrai, mais c'est très asténant de tourner un petit film, hein. Si on te demande 10 à 12 fois de refaire la même scène, tout ça parce qu'un cendrier était mal placé, parce qu'il y avait une fleur qui était là.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous en dire un peu plus sur ce film ? C'était quand ? C'était qui ? C'était quoi ?
C'était avec des résidents, oui, oui. Ben, disons que quand j'avais fait le théâtre, donc il y a 8 ans, lorsque je suis sorti d'hosto, j'ai fait la connaissance donc de différents acteurs et ils avaient pensé à moi, ils cherchaient un vieux con.
Ah, mais t'as le profil, là.
J'ai le profil du vieux con, absolument. C'est pour ça qu'ils m'ont pris, d'ailleurs. Non, ouais, c'était des gens d'un troupe de théâtre que je connaissais, ils avaient pensé à moi. Et eux, c'était des étudiants de l'Institut européen du cinéma. Il leur fallait faire des petits films de 15 à 20 minutes. Et nous avons terminé à la 2e place. Pourtant, nous sommes des amateurs, hein, à 2e place.
De quoi parlait ce film ?
Ben, j'étais prisonnier ici, et je me suis enfui, puis il y a des infirmiers en blouse blanche qui me rattrapent dans la rue. Et il y avait, comme par hasard, à ce moment-là, il y a des gens qui passaient et qui ont cru que c'était une scène véritable. Ils sont intervenus, ils m'ont libéré. Et moi, je dis, écoutez, il y a une caméra, là, on est en train de tourner un film. Ils me disent, ah bon, excusez-nous. Donc, ils pensaient vraiment que j'étais mal en point. Donc, vraiment, l'altruisme des gens, des médecins, je le salue, là, voilà, voilà. Et après, nous avons tourné là. J'ai réussi à m'enfuir. J'ai fait de l'autostop. On m'a conduit à Saarbrück où j'ai retrouvé les traces d'une ancienne que j'avais aimée il y a bien, bien, bien longtemps, mais qui est décédée entre-temps, mais qui était artiste, qui m'avait légué un héritage. Mais un héritage, c'était se traduisait par tableau, mais d'une mocheté incroyable. On n'ose pas dire ça à des artistes, il y en a qui ratent leur coup, quoi. Bon. Et puis à la fin, je me fais quand même de nouveau rattraper. Et puis voilà, ça se termine mal. Enfin, ça se termine bien, moi. Puis là, je me rappelle. Bon, alors, c'est impressionnant quand même. Vous avez 2 caméramans, vous avez preneur de son, vous avez le réalisateur, vous avez 36 gars. Oui, non, mais c'est assez embêtant. Et puis, on m'a imposé un scénario, parce que moi, je l'aurais fait un peu différemment. Et je me rappelle, on était donc attablés dans ce restaurant qui s'appelle le Pilâtre de Rosé, pour ne pas le nommer, n'est-ce pas ? Formoselle, rue de Paris, absolument. Et je n'arrivais pas à répéter mon texte. Ça fait que je me suis levé, je suis allé au bar, et j'ai demandé au barman, je voudrais 2 bières. J'ai bu 2 bières secs et je suis retourné à ma place et puis les paroles me sont revenues. Comme quoi ?
Alors on fait une petite pause dans l'émission à la demande de Daniel et on revient dans un instant. Bon retour sur Borny Buzz Radio.
Ah, ça y est, je suis de retour. Je viens de courir. J'ai fait 5 fois le tour de la cour. Ouh.
Alors, en fait, on a le début de ta naissance, tes parents, le lycée, le collège, les loupés. Et après, on a la fin.
On peut être dans l'ordre chronologique, effectivement. J'imagine que vous étiez traducteur français-allemand.
Oui, j'ai même travaillé à la communauté européenne à Bruxelles, mais ils ne m'ont pas gardé. Parce qu'à l'époque, pour être fonctionnaire d'État ou fonctionnaire international, il fallait avoir fait son service militaire. Et bien qu'étant fils de militaire, j'étais antimilitariste, donc j'ai réussi à me faire réformer. Et là, j'ai reconnu que j'avais quand même des talents de théâtre. Parce que le lieutenant-colonel, qui était donc médecin, il m'a dit « Vous êtes très fort. » Ou bien « Vous êtes très fort » ou « Vous êtes vraiment fou. » Et bien vraiment, on m'a pris pour un fou, quoi. Donc ça avait marché. J'étais très heureux de ne pas avoir à faire mon service militaire, parce qu'entre-temps, j'étais tombé amoureux, hein, ça arrive. Et puis cette femme-là, elle dit, ça fait 5 ans que tu es à la fac, tu ne vas pas partir encore 12 mois dans l'armée. Puis elle était anti-militariste comme moi, elle dit, tu as raison, je vais me faire réformer. Et grâce à ma pseudo-folie, j'ai réussi à être exempté. Mais mal m'en pris, parce que j'ai travaillé à Bruxelles pendant... Pas tout à fait 3 semaines, et je suis convoqué un jour chez les responsables du personnel, et il m'a dit, monsieur, vous n'avez pas fait votre service militaire? Je dis, ben non. Il me pose la question, mais pourquoi? Je dis, j'étais P4. Il me dit, vous êtes fou? Je dis, ben ça se voit. Ben, toujours est-il qu'on ne m'a pas conservé. C'est comme, j'aurais eu un sacré boulot quand même, hein, plus les avantages. Non, mais après, je suis rentré dans une grande chaîne hôtelière. À l'époque, on trouvait du boulot facilement. Hein. Hein, du lundi au mercredi, j'avais 4 ou 5 propositions d'emploi. Hein, je n'ai pas pour ôter longtemps. Au bout de 2 jours, j'avais mon boulot. Et j'ai fait carrière dans l'hôtellerie, voilà.
Rien à voir du coup avec vos études?
Ah non, non, non. Ben si, il faut être trilingue. J'ai la chance de l'être parce que j'ai eu la chance d'être dans une école en Allemagne où on n'était que 12 élèves et nous avions des profs, des femmes profs anglaises, et nous avions aussi un prof américain qui était basé à la base de Ramstein, c'est au nord de Saarbrück, à 50 km de Saarbrück, et qui était donc qui faisait son service militaire et qui prenait donc ce job à la place, quoi. Et c'est lui qui m'a appris les accents américains, parce qu'il y a une grande différence entre l'anglais et puis je prends toujours un exemple assez simple. Donnez-moi un verre d'eau. « Please give me a glass of water. » Ça, c'est British. Tandis que l'Américain disait « Give me a glass of water. » Voilà. La différence, elle est là. Mais voilà. Et moi, j'ai beaucoup travaillé les accents. Je me suis beaucoup amusé quand j'étais en Angleterre. D'ailleurs, des gens me disaient « Mais vous êtes de Oxford. » Je dis « Non, je ne suis pas d'Oxford. Je suis de Lorraine. » Non, mais j'allais tous les ans, je bossais dans les aciéries, j'avais un travail assez dur, et je gagnais relativement beaucoup d'argent pour 2 mois pour me payer le lycée, puis la pioule en Angleterre. Je l'ai fait à plusieurs reprises, ça m'a beaucoup servi. Et ça a servi par la suite à mes filles, parce que c'est moi, parce qu'il faut dire que l'enseignement des langues dans le système français, c'est zéro, c'est nul. Il y a un mec qui fait 5 ou 6 ans d'anglais, tu l'envoies à Londres pour acheter un pain, il saura pas le faire, quoi, tu sauras pas le dire. Donc j'ai travaillé toujours avec mes filles. Et si elles sont parfaitement, je dis, elles me dépassent maintenant largement, si elles sont parfaitement trilingues, c'est grâce au papa qui les embêtait tous les samedis après-midi au niveau du vocabulaire et de la grammaire. Mais ça, il fallait le faire. Un samedi, dimanche, français, un samedi, dimanche, anglais, un samedi, dimanche, allemand. Je suis un peu loin maintenant de mes enfants, mais elles se sont rappelées récemment, lorsque nous avions discuté, que papa, il était chiant, passez-moi l'expression, mais ça leur a beaucoup servi. Un truc tout bête, Caroline, elle avait 3 ans, j'ai dessiné une carte de France muette. Et toutes les semaines, je lui apprenais de placer les villes. Donc, à 4 ans, je lui disais, Dunkerque, c'est où? Elle savait que c'était là, Perpignan, c'est là, Brest, c'est là, Strasbourg, c'est là. Elle a photographié ça. Pour ça, elles étaient contentes.
Et donc, vous avez travaillé dans l'hôtellerie, toujours en Lorraine? Vous êtes resté dans la région?
Nein, in Deutschland. En Allemagne.
Dans quel coin?
Düsseldorf.
Combien d'années?
Düsseldorf und Saarbrücken. Also, circa 30 Jahre. Pardon, 27, 28. Mais malgré ça, je prenais ma voiture pour foncer à Metz, ou bien j'enregistrais, parce que je faisais un peu de radio locale. 15 jours avant l'arrivée de M. Mitterrand, vous connaissez le mec là, qui a eu la Francisque là, avec 2 pétins d'un cœur, et c'est président de la République. Donc 15 jours avant qu'il arrive au pouvoir, nous avons émis du Saint-Quentin et de la rue Taison. Il y avait une boutique qui s'appelait le Graouli à l'époque. C'était une radio... Ça n'existe plus de toute façon ce genre de radio libre avant tout, mais correct, à part certains hommes politiques qui ne m'aimaient pas beaucoup. Remarquez, c'était réciproque, je ne les aimais pas non plus. Mais j'avais réussi à faire une très très bonne émission qui s'appelait Alternative, et tu avais Yves Vernal et Steve Val, ouais, bon, n'est-ce pas, le mec pas modeste, hein. Enfin bref, d'accord. Et c'était une émission politique qui s'appelait donc Alternative, où j'interviewais. Et puis ils ont tous répondu présents. Tous ceux qui sont au pouvoir, dont on entend encore parler, ils étaient tous... Ils n'ont pas refusé mon invitation. Ben, y en a qui étaient surpris parce que ma première parole était la suivante. « Salut, est-ce que je peux te tutoyer ?» C'était du quart zéro avant l'heure, quoi. Hein. Mais, et ça leur a beaucoup plu, sauf un.
Et combien de temps à Graouli, Radio Graouli ?
Elle a duré 5 ans, étant donné que les renseignements généraux, qui notamment nous ont tout volé. Parce que j'avais la chance d'avoir un monsieur au téléphone. Ça devait être quelqu'un de haut placé, mais je n'ai pas réussi à savoir qui. Il me téléphonait toujours en douce à 7h10 et il travaillait en préfecture. Il me disait ce qui se passe, de quoi il en retournait, de quoi, qu'est-ce qui se passait. Ça fait que l'information, je l'avais avant le Républicain Lorrain et avant Metz, la ville de Metz. Et d'ailleurs, tout le monde était surpris. Mais comment ça se fait que hier, tu as dit que... Ah, j'ai mes sources. Voilà. Et ce monsieur-là, il était bien placé et il pouvait défendre ses idées par moi. Voilà. C'était la radio libre, une radio ni gauche ni droite. On avait des beaux petits jingles, mais on n'a pas le droit de les passer. Tu vois, c'était Jacques Dutronc. Boum, boum. On nous cache tout, on nous dit rien. Heureusement qu'il y a RGM. Oh là là, le succès qu'on avait.
Mais comment ça se fait que vous êtes tombé dans la radio ? Parce que vous connaissiez des gens, comment vous êtes rentré en contact avec ce milieu-là, qui n'avait rien à voir avec ce que vous faisiez au final ?
Je faisais ce qu'on appelait le billet du jour, c'est-à-dire c'est comme un éditorial de journal, voilà. Et je développais une idée par jour, voilà. Puis Jeunet m'a dit « reviens à la radio », parce que c'était à l'époque que j'étais parti, je ne pouvais pas concilier les deux. J'ai dû arranger mon timing. Il m'a dit que les éditoriaux lui plaisaient beaucoup, que c'était dans l'esprit d'RGM. Il m'a dit « tu peux continuer ». J'ai continué. Et après, j'ai pris une certaine amplitude, je peux dire. On a essayé de développer un esprit alternatif à Metz, mais ça ne marchait pas. On a pourtant pas mal zoné au Solci, on a distribué des tracts, on a incité les gens à bouger, parce que je m'étais tout grand. Ici, à Metz, vous dormez, c'est vrai. J'organisais des réunions, les jeunes n'avaient rien à foutre. Je parlais d'écologie en 85. Pour l'écologie, je crois. Ouais. Alors que maintenant, c'est le number one, c'est de la une, là, l'écologie, quoi. Et j'ai eu la chance, la grande chance, d'avoir rencontré un monsieur. Il m'a dit qu'il est venu spécialement pour moi, mais je ne le crois pas. C'était un menteur, comme tous les hommes politiques, de toute façon. C'était Daniel Cohn-Bendit. Ça vous dit quelque chose, ça ? Bon. Voilà. Oui, c'est un mec formidable. Et lui, il n'est pas bilingue, il est équilingue. C'est-à-dire que, aussi bien en français qu'en allemand, il est parfait. Il était venu me soutenir, voilà, puisque j'avais eu la bonne idée de créer un parti politique. Ben, sous le truc associatif, ça coûtait pas cher, quoi. J'avais quelques économies quand même. Et ça s'appelait Pour une autre alternative, où je parlais déjà de démocratie directe que M. Scudéry a récupéré.
Et vous étiez quel type de parti ?
Ah ben oui, ben, du Républicain Lorrain me téléphonait souvent en me disant « Mais vous êtes de quel parti ? Vous êtes à gauche ?» Je dis « Non, on n'est pas à gauche. Vous êtes à droite ?» « On n'est pas à droite. Vous êtes où ?» Ben, on est différents, voilà, c'est tout. Et lorsque j'étais en colère parce qu'il y avait des mauvaises news... sur le toit de RGM, je plantais un drapeau noir. Ça voulait dire qu'aujourd'hui, ça va chauffer.
Mais dans tout ça, là, c'est intéressant, mais tu dis pas le début. Qu'est-ce qui t'a mis le pied à l'étrier de rentrer dans cette idée de faire de la... C'est ça aussi que je voudrais comprendre.
Ça va vous surprendre, ma très chère Annie. Voilà. Non, c'est parce que je me sens proche des gens. Et des gens qui ne pouvaient pas céder. Ils étaient perdus. Je me rappelle l'histoire d'une famille vraiment en détresse, où l'UM leur avait carrément coupé l'électricité et qui avait beaucoup de dettes. Bon, ben, c'était des jeunes, ils ne savaient pas gérer. Et j'ai réussi à avoir la direction de l'UM à l'époque. Et j'étais assez vicieux. Je disais, monsieur le directeur, faites attention à ce que vous dites parce que vous êtes en direct. J'ai ouvert les micros. Mais il a réussi à arranger les choses dans la semaine qui a suivi, quoi. Et une histoire, RGM, c'était ça. C'est-à-dire que celui qui avait des idées pour faire une émission, quoi que ce soit, il pouvait le faire. Il y avait de la liberté. Il n'y avait pas de contraintes. Et je me rappelle qu'un soir, j'ai pris la voiture. J'habitais à quelques kilomètres d'ici, quand même. Et à 3h du matin, je m'installe à la radio, puis je passe de la musique, puis je fais un petit speech, comme d'habitude.
Allez, racontez le nounours, c'est le gros minet.
Non, c'est pas ça. Je faisais un peu de littérature, c'est de la poésie. Et un homme me téléphone et me dit « je vais me suicider ». Je lui dis « arrête tes conneries, t'es où là ?» Et elle dit « je suis pas loin de Bon Secours, il y a une cabine téléphonique ». Je lui dis « ça va, la radio est à 50 mètres de là où tu es. Viens, je t'invite, la lumière est allumée et la porte en bas est ouverte ». Et le gars, il est venu et puis on a mangé, on a fumé des clopes, on a bu des bières, on a... Et c'était un poète qui s'ignorait. Puis il me récitait ses poèmes qu'il avait. Il était au bout du rouleau. Et on a discuté, on a fait une émission comme ça, à l'impromptu, jusqu'à 7h du matin. Ben, 7h du matin, c'était un militaire de carrière. Il s'est levé, il m'a remercié, il m'a dit « Yves, si je t'avais pas entendu cette nuit, je me serais flingué », parce qu'il avait posé son flingue dans le studio. Il a dit « je suis au bout, j'arrive plus, mais tu m'as redonné goût à la vie avec tes conneries et tout ça ». Tu vois, j'avais fait une sacrée BA. Ah, là, ouais, j'étais content de moi. Le gars, il ne s'est pas suicidé, quoi. Il a pris son flingue, il l'a rangé, puis il est parti, quoi.
Vous l'avez revu après ?
Non, jamais, malheureusement. Mais il n'était pas d'ici. Hein. Bon, il était muté à Metz, je ne sais plus à quel régiment. Donc, il a fait son service militaire, puis il est parti, quoi. Voilà. Moi, je pense qu'il n'a pas dû m'oublier, quoi. Parce que si chaque soir, il a envie de se mettre un flingue sur la tempe, il doit penser à moi, quand même. Et puis d'autres aventures, il y a des gens bizarres qui viennent vous chercher pour faire découvrir un tas de choses. Et comme moi je suis quelqu'un de curieux de nature, je disais toujours oui. Je me rappelle d'une femme qui était à devant les ponts quelque part dans une petite rue que je ne citerai pas. Elle m'a dit, elle téléphone à la radio, elle me dit « je t'attends, j'ai des choses à te dire ». Je dis « bon ». Tu vas voir ce qu'elle va me dire. J'arrive là-bas, elle me sort un whisky, puis un deuxième whisky, ça je me rappelle. Puis elle commence à faire elle prend un verre, le retourne, commence à faire du spiritisme. Comme je ne crois pas à ce genre de conneries, du moins je n'y crois pas. Elle m'a dit, mais essaye. Alors je mets ça à la table, je posais des questions. Elle m'a dit, ça y est, je suis en relation avec une femme qui a vécu en 1780. C'est formidable. Alors, elle m'a raconté comment elle était devant les ponts. Alors, il y avait oui et non. Elle dit, est-ce que c'était peuplé? Elle me disait non. Est-ce que vous vivez bien là-bas, devant les ponts? Oui. Ah bon, vous êtes marié? Oui. Non, mais on rencontre des gens bizarres comme ça. Et on rencontre des gens bizarres aussi dont le mari est en tôle pour crime, enfin pour un assassinat, alors qu'il ne l'a pas fait, vous le savez pertinemment. Mais il était en transit ici à la prison, et cette dame, elle a réussi à se faire embaucher par RGM. Elle a beaucoup de tchatch. C'est une femme très cultivée, qui me disait « je suis une sorcière ». Lorsqu'une femme vient vers vous et vous dit « je suis une sorcière », elle éveille votre curiosité, forcément. Et j'ai laissé, donc, la dame s'est endormie, là, c'est bien. Je suis très soporifique.
C'est l'heure de la sieste pour Daniel. On va passer bientôt un jingle pour la réveiller.
Voilà, un jingle. Je rappelle que vous êtes toujours à l'écoute de Borny Buzz, B-U-2-Z. Il faut dire qu'à l'époque... Lorsque je traînais du côté de la place Saint-Louis, je connaissais bien les barmans et ils disaient qu'ils déploraient que Metz soit une ville morte le dimanche après-midi. Ce à quoi j'ai répondu, mais écoutez, laissez-moi 15 jours, je connais un orchestre de Sarrebruck qui viendra avec plaisir et ça ne vous coûtera rien du tout et on fera de l'animation sur la place Saint-Louis. C'est ce que nous avons fait. J'ai organisé ce qu'on appelle une auberge espagnole. Chacun apportait ce qu'il voulait, de la bière, du rosé, du scotch, la salade de nouilles. Ben, rien n'était frais. Bon, c'est vrai, il faisait une chaleur à crever, c'était le 1er août. On a animé tout l'après-midi de la place Saint-Louis. Et vers 5 heures, je demande à messieurs, je vous demande de faire un effort. Vous vous levez et vous invitez une dame à danser. Et personne ne se lève. Je répète de nouveau ma doléance, toujours pas de réponse. Alors je dis, bon, ben je vais accorder deux danses à toutes les femmes présentes sur la place Saint-Louis. Chose que j'ai faite. J'ai dansé tout l'après-midi. Et ma dernière danse, ça devait être vers 6h, 6h15, c'était un rock'n'roll, mais un vrai de vrai, quoi. Elle s'appelait Brigitte. C'est joli, une femme qui s'appelle Brigitte. Et puis voilà, je te danse. J'ai le temps de prendre le micro, de remercier tout le monde, de poser le micro et de tomber de l'estrade. Et à ce moment-là, ma bouche tombe sur les pavés et je vois mes dents qui foutent le camp. Là. Ouais, alors les autres, ils ont dit, bon, ben, de toute façon, Yves, c'est un comédien, il n'a rien, il fait semblant d'être malade, là. Alors, au lieu d'appeler le SAMU, parce que je venais de faire un AVC, au lieu d'appeler le SAMU, on me balançait des grands sauts d'eau froide dans la figure. Plaf, plaf. Voilà, et puis on m'a tiré jusqu'au bistrot qui s'appelait au bureau à l'époque, ouais, à l'angle, voilà. Et là, ils m'ont mis sur une banquette et j'ai dû roupiller 4 ou 5 heures. Puis je suis rentré chez moi, sans soin. J'ai vécu toute la journée, enfin toute la semaine plutôt, en allant boire mes 4-5 rosés tous les après-midi. Ça m'inspire, c'est pour les poèmes, hein. C'est pas pour la boisson, c'est pour les poèmes. Et j'avais organisé un pique-nique au parc de la Seille, qui s'appelle le parc Jean-Marie Pelt maintenant. Et ne me voyant pas venir, il y a deux femmes qui se sont quand même inquiétées. On me dit, mais Yves n'est pas là, c'est pas dans ses habitudes. Donc elles ont eu la bonne idée de venir chez moi. J'habitais au centre-ville à ce moment-là. Et on frappait à la porte, elles ont fait du bruit. Et puis moi, je leur répondais, je suis mort ! Je suis mort ! À l'une, elle a dit, bah, s'ils déconnent comme ça, c'est que ça va mal. Ils ont appelé la FOIAVE, les pompiers, qui ont défoncé ma porte et qui m'ont amené à l'hôpital. Et je suis tombé dans un coma. Après, je ne sais plus.
Et vous en êtes sorti, finalement, en bonne forme ?
Non, j'ai laissé qu'un quand même, avec deux AVC.
Ça aurait pu être pire.
Pour conclure peut-être cette émission, je sens que Yves arrive à bout de souffle.
Ah oui, parce que je ne veux pas tout dire quand même. C'est que des bêtises.
Alors on peut peut-être, parce que là c'est vrai qu'on a votre vie, peut-être en conclusion nous dire comment ça se fait que vous êtes revenu à Metz. Parce que vous avez quitté la ville, mais vous y êtes revenu.
Oui, bah, j'ai perdu mon épouse et puis j'avais une grande maison. Et c'était vraiment ridicule que d'habiter une grande maison comme ça, de payer des taxes foncières et tout ça. Et puis surtout l'entretien, parce que j'avais un très grand terrain. Et mes filles ont trouvé à travailler à l'extérieur. Donc je me suis retrouvé avec cette grande maison. Je me suis dit, bon ben, où puis-je aller à Strasbourg? C'est des vacances que je les aime pas trop. Les Nancéens, c'est des craignos, alors je les déteste. Ah, si j'allais à Metz, tiens, ben voilà. Voilà. Arrivé ici, il a fallu qu'on me convainque. Oh, mais Yves, on dit pas Metz, on dit Metz. J'ai mis 12 ans à comprendre, tant que parfois j'en doute encore. Mais j'adore cette ville. Oh, j'adore cette ville. Ah, si je pouvais la serrer dans mes bras, je la couvrirais de bisous. Pour vous dire la vérité véritable, lorsque ma femme est décédée, et l'année d'après aussi, j'étais vraiment très, très, très marqué par sa disparition. Et dans le Républicain Lorrain, vous savez, le répugnant Lorrain qui accepte les trucs nécrologiques, j'ai mis une photo de ma femme et j'avais mis un poème en dessous. Et un jour, une femme me téléphone et me récite ce poème. Je dis, bah oui, c'est moi qui l'ai écrit. C'était un acrostiche pour être précis, voilà. Et puis elle me dit, j'ai bien connu votre femme et j'aurais voulu savoir comment elle avait vécu. Ah, je dis, ben, moi, je ne vous connais pas. Elle me dit, non, je l'ai connu à la fac de droit à Nancy à l'époque. Et nous étions les meilleurs amis. Puis la vie faisant que bon, chacun va de son côté, on se perd de vue. Et puis c'était effectivement sa meilleure copine, mais elle était un peu actrice. C'est une grande artiste, elle fait des peintures sur soie magnifiques. C'était une femme, elle ne pouvait dormir que sous un lit à baldaquin. En écoutant du Mozart, vous voyez le genre. Oui, c'est comme ça que je l'ai... Parce qu'elle m'avait invité chez elle. Puis elle m'avait dit, tu passes par la porte de derrière, fais attention aux voisins. Oh. Puis, non, mais c'est un truc qui m'est resté. Ça fait, elle avait une grande maison. Je rentrais dans ce couloir et au fur et à mesure que je m'approchais de la chambre du fond, il y avait de la musique de Mozart qui venait toujours plus forte. Elle était là, en dessous, couchée sur le côté, en me disant « Ah, je t'attendais ». Non, c'était une femme spéciale, inoubliable. La différence qu'elle avait avec ma femme, c'était une écolo convertie. Pour seul bijou, elle avait une autre alliance. Tandis que ma nouvelle copine, elle aimait bien s'arrêter devant les vitrines des bijoutiers. Vous devinez le reste, n'est-ce pas? Mais quand on est amoureux, et là j'étais follement amoureux, ça fait qu'elle a pris un appartement, elle s'est acheté un appartement à Metz et moi j'étais là. Ça fait que 2 ou 3 fois par semaine, nous nous rencontrions et nous allions aussi, nous allions à l'opéra, nous allions au théâtre, nous allions au concert. Et c'est pour ça que je suis venu à Metz et puis bon, ben, comme elle m'a dit, une passion amoureuse ne dure que 3 ans. Après c'est fini, apparaît-il. Et ça fait plus de 3 ans qu'on était ensemble. Notre amour s'est étiolé. Voilà. Je me rappelle même que j'avais écrit un poème à ce moment-là. Et il m'est resté le poème. Que puis-je encore t'offrir si ce n'est mon silence et en guise de souvenir des gerbes de souffrance ? Les contours de mon monde ne sont plus les tiens et sur notre amour en ruine je fonde mes tristes lendemains. Je me rappelle de ça parce que ça m'avait beaucoup marqué. Non, en conclusion, vous m'avez demandé tout à l'heure, je suis un éternel rêveur. Moi, il y a des moments où c'est très, très grave. Je bégaye peut-être, c'est parce que j'ai tellement de choses que je voudrais vous dire, sans vous les dire, n'est-ce pas ? Mais les premières vacances que j'ai passées libres, c'est-à-dire qu'après le décès de ma femme, j'avais une grande liberté que je ne connaissais pas avant. Et là, j'abusais. C'est-à-dire, j'étais vraiment décalé. Je connaissais un club cubain, là, où j'allais jusqu'à 3h du matin. Au lieu de bouffer, je pouvais des rhums. Bon, enfin, bref. Mais c'est pas étonné, parce qu'il y a des choses qui sont indicibles. Et puis, j'ai des secrets aussi.
Merci à nos 3 invités du jour.
Ce fut avec plaisir.
Oui. Un grand merci à notre technicienne Laura.
Merci à tous et à bientôt pour une prochaine émission de Petites et Grandes Histoires de Metz. Au revoir.
Au revoir. Merci.
Au revoir.